Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10-10. Merci à Olivier qui va assurer la technique de ce moment de radio et bienvenue aussi à Dominique Anthony qui est le président du club de la presse Occitanie, s'il
Bonjour.
Vous plaît. Bonjour. Alors Dominique, on avait parlé il y a déjà un petit moment d'évoquer la question de l'IA dans les métiers de la communication et de la presse, tout en sachant que ça impacte toutes les branches d'activité de la société française mondiale, même globale en général. Tous les métiers étant impactés, les nôtres sont plus particulièrement sensible en ce qui concerne la communication et le journalisme. Alors j'avais gardé, parce que le Club de la Presse fait paraître régulièrement des documents intéressants, comme un magazine qui s'appelle Accroche. Et j'en avais gardé un, effectivement, qui concernait l'IA. Donc je me suis beaucoup inspirée de ce document, qui parle essentiellement des métiers de la communication, ce qui n'est pas tout à fait pareil que les métiers du journalisme ou de la presse.
Mais nous pouvons parler effectivement des métiers du journalisme.
Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'ai une référence quand on parle du journalisme, c'est Camus. Alors, je vais lire un tout petit texte et vous allez voir que dans ce texte, vous aurez déjà probablement beaucoup de choses à dire par rapport à l'IA. Donc, Camus disait, qu'est-ce qu'un journaliste ? C'est un homme qui d'abord est censé avoir des idées, c'est ensuite un historien au jour le jour et son premier souci doit être là. Vérité. Peut-on dire aujourd'hui que notre presse ne se soucie que de vérité ? Donc il écrivait ça il y a quand même déjà un certain temps. Informer bien au lieu d'informer vite, de préciser le sens de chaque nouvelle par un commentaire approprié, d'instaurer un journalisme critique, ça c'est important, critique, et en toute chose de ne pas admettre que la politique l'emporte sur la morale, ni que celle-ci tombe dans le moralisme. Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça a été écrit il y a très longtemps, c'est une sorte de manifeste, hein. Il a fait beaucoup de textes sur le journalisme, il a beaucoup travaillé sur cette question. Et c'est vrai qu'avec l'IA, de nombreux problèmes se posent avec l'utilisation de l'IA dans ces métiers du journalisme.
Alors en fait, peut-être dire à nos auditeurs un mot sur le club de la presse. Car le club de la presse, c'est important de le savoir, regroupe à la fois les personnes qui sont dans l'information, donc les journalistes, vous l'avez dit, on va en parler bien entendu, et aussi les personnes qui sont dans la communication. Alors, il faut savoir, sans cocorico aucun, que le club de la presse Occitanie, et on ne le sait pas assez, hein, je trouve, j'en suis le président et je vous le dis en vraiment d'expérience, c'est le premier club de club de la presse de France, si on prend le critère des adhérents, nous sommes à peu près 1450 aujourd'hui adhérents à jour de leur cotisation. Sur l'importance du réseau de nos 6950 personnes qui sont régulièrement informées de nos activités, je sais que vous en faites partie, Maria. Sur la diversité, l'originalité de nos initiatives, on en dira peut-être un mot, mais ce n'est pas l'essentiel du propos aujourd'hui. Et au fait, aussi sur le nombre de nos salariés, figurez-vous, nous avons, nous, 6 salariés. Donc, c'est un club de la presse qui se porte bien, qui a beaucoup d'initiatives. Si je suis là aujourd'hui, c'est que la société civile et d'autres médias le reconnaissent aussi. Et c'est vrai que l'Occitanie, qui est une région énorme avec 13 départements, plus de 6 millions d'habitants, c'est un énorme machin, si je puis dire, comme pour reprendre les mots du général de Gaulle. Sauf que, effectivement, ça marche, l'Occitanie, et le club de la presse Occitanie, ça marche aussi.
Alors, justement, ce que vous venez de dire est important parce qu'en fait, vous proposez un grand nombre de travaux, de conférences, de rencontres sur des sujets d'actualité qui touchent évidemment les métiers de la presse, les métiers de la communication. Et l'IA a fait partie effectivement de vos préoccupations parce que c'est préoccupant, on va dire.
Alors l'IA, effectivement, c'est un élément désormais, non pas central, mais vraiment très très important dans nos activités. Deux exemples concrets. Premier exemple, nous avons un dispositif qui s'appelle...
L'IA, c'est l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle, oui, il faut le dire à nos auditeurs, tout le monde n'entend pas les acronymes. L'intelligence artificielle, donc nous avons effectivement... immédiatement senti, compris quel était l'enjeu de ce nouvel outil, plus que ça, c'est en fait une véritable révolution copernicienne pour nous tous. Et ce qui est important de voir, c'est qu'on a compris ça à travers nous, le prisme de l'information. Et très concrètement, nous avons ce que nous appelons esprit critique, donc nous intervenons depuis 2017, hein, c'est pas hier, c'est après malheureusement les assassinats de Charlie Hebdo en 2015, nous intervenons dans les collèges, dans les lycées, nous intervenons aussi dans les lieux privés de liberté. Eh bien, aujourd'hui, dans nos interventions esprit critique, on a formé quand même 13 000 personnes, hein, c'est pas rien, depuis 2017. Dans nos interventions esprit critique aujourd'hui, eh bien, il y a l'IA. Il y a l'IA sur quoi ? On n'est pas, c'est quelque chose d'extrêmement resserré. Nous sommes sur l'IA pour montrer combien l'IA pouvait fausser les choses, combien une image pouvait être complètement transformée, comment trafiquer, il faut le dire. Et donc, nous donnons des outils aux jeunes et aux moins jeunes. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, notamment des moins jeunes, parce qu'il faut savoir que les seniors qui nous écoutent sont parfois ceux qui communiquent le plus avec leurs petits-enfants, qui communiquent énormément et parfois qui communiquent trop et mal. On en parlera. Mais ce que je veux dire, c'est que l'esprit critique, précisément, c'est un outil qui nous permet de toucher du doigt la question de l'intelligence artificielle. Premier élément. Deuxième élément aussi très important, c'est qu'on n'a pas voulu en rester là et on a mis en place un dispositif, on y réfléchit actuellement, on le mettra en place probablement au début de septembre, qui est aussi un esprit critique IA complètement intéressé et tourné autour du décryptage de l'intelligence artificielle.
Donc on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on rentrera dans le détail de ça. Quels sont les garde-fous? Que peut-on faire? Parce que de toute façon, maintenant, je crois qu'on ne peut pas éviter l'IA. Ça existe depuis longtemps, on n'en avait pas forcément conscience. On en a de plus en plus conscience, mais sait-on décrypter? Ça, c'est ce que vous allez nous expliquer, comment le faire. Ce qui me paraît important, c'est que l'IA donc, existe depuis longtemps, mais elle n'est pas arrivée comme ça. C'est-à-dire que depuis les années 70, on va dire, pour le grand public, pour les usages ménagers, il y avait déjà quand même un certain nombre de choses dans lesquelles on pouvait être piégé. Et on n'a pas forcément déjà, à cette époque-là, mesuré sur ces outils-là combien le piège pouvait être important et se refermer sur nous. Et l'IA arrive là-dessus, où là, ça démultiplie complètement les effets.
Alors nous, j'ai pas répondu à Camus, qui est notre maître à tous. Alors je vais dire un mot.
Ah, vous me rassurez, j'ai eu peur d'avoir fait bourde.
Parce que Camus, au fond, c'est un Méditerranéen et nous sommes des Méditerranéens. Je suis un Méditerranéen et donc bien sûr, je veux saluer la vista considérable de Camus, qui déjà disait des choses extrêmement importantes et a vu des choses très graves, notamment. Et il a fait des reportages. Il est allé en Kabylie. Il a fait du reportage sur le terrain. Et donc, il a compris quelle était vraiment l'essence du journalisme. Oui, nous sommes d'accord avec Camus, mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les choses sont tellement chamboulées qu'on ne peut plus se contenter de ça. Je crois qu'il faut aujourd'hui se défendre, se battre pour le droit à l'information fiable pour chaque citoyen, pour chaque auditeur, j'ai envie de dire, de Radio FM+, parce que au fond, c'est la démocratie qui est en jeu. Et je crois que ça, il faut toujours le dire et toujours l'expliquer. Cette question-là, elle est véritablement centrale.
On va faire un point musical dans quelques instants. Mais moi, d'ores et déjà, je voudrais recommander aux auditeurs qui ne l'auraient pas vu d'aller voir le film Orwell 2+2=5. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Il est tout à fait admirable.
Il est admirable. Et effectivement, il explique comment, sur plusieurs dizaines d'années, nous en sommes arrivés à ce que Orwell prévoyait pour 84, mais qui a été fait bien avant et dépassé. C'est largement depuis, mais comment nous sommes pris dans cette espèce de ligne comme une espèce de, comment dire, char d'assaut contre lequel nous ne faisons pas grand-chose et nous ne savons même pas si nous pouvons faire quelque chose. Tout de suite, première pause musicale, Dominique, c'est vous qui l'avez choisi.
Alors oui, j'aime beaucoup. Alors vous savez que les journalistes, ils aiment beaucoup les mots. Ils aiment beaucoup les mots, notamment qui sont triturés, qui sont agencés de façon tout à fait étonnante. Et là, il y a un groupe qui s'appelle Collage de France. Bien sûr avec le lien avec Collège de France. Et c'est un disque qui est formidable parce qu'il s'inscrit, si vous voulez, dans la tradition à la fois ludique et ésotérique, permettant de faire passer des sous-textes, etc. Et là, on va écouter une des chansons du groupe qui s'appelle le langage de France, et la chanson s'appelle Flagrance décollée. Vous avez compris, c'est un anagramme de Collage de France. Une seule phrase, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fini les lassants récits, adieu la mutité, au sein du récent lacis, elle a communiqué. Écoutons.
Garantie sans IA.
Dans l'hypogée de Belleville, tu te taisais comme un ourson ouvari. Tu as flairé depuis le vaisseau de Thésée des effluves de muscarie. Sous les abysses, la petite d'Europe, vocalise sans perdre l'haleine. Pendant le bis, elle te tend la pelote à la manière des Champs-Hélènes. Fini les lassants récits, adieu la mutité. Au sein du récent lacis, elle a communiqué. Le courroux est un départ, jamais une arrivée. La couleur du décollage est sans cesse avivée. Hybride et télescopé vos orbites, tu as épié ces billes célestes. Apercevait-elle des satellites la gravité lâchée du lest? Fini les lassants récits, adieu la mutité. Au sein du récent lacis, tu as communiqué. Le courroux est un départ, jamais une arrivée. La couleur du décollage est sans cesse arrivée.
Retour dans ce 10-10 avec comme invité aujourd'hui Dominique Anthony qui est président du club de la presse Occitanie, Olivier qui est à la technique. Sans Olivier, il n'y aurait pas d'émission, même si on était tous les deux, on n'y arriverait pas.
Ce serait difficile en effet.
Ce serait difficile. Et on parle de l'IA. Alors peut-être qu'avec l'IA, on y arriverait mieux, je n'en sais rien. Enfin en tout cas, on ne va pas faire l'expérience aujourd'hui. Donc on a vu tout ce que l'IA pouvait effectivement avoir de dangereux, en tout cas en ce qui concerne les métiers de la presse, les métiers de la communication. Mais est-ce qu'il ne serait pas bien aussi de voir ce que l'IA peut apporter comme valeur ajoutée, tout en redéfinissant bien les dangers par la suite. Beaucoup de gens disent, d'ailleurs c'était le titre d'accroche, hein, c'était « Gagner du temps ou perdre son emploi », le fameux magazine dont je parlais tout à l'heure en début d'émission.
Qui est le magazine du Club de la presse Occitanie,
voilà,
trimestriel.
Voilà, et qui parlait donc de l'IA. Faire mieux avec moi, j'ai lu ça dans ce magazine. Rester dans les budgets, c'est un garçon qui s'appelle Steve Gallet qui dit ça et qui est fondateur de l'agence de communication Verywell. Et puis, l'IA libérerait, paraît-il, les salariés de tâches répétitives dans les métiers de la presse. Certains métiers pourraient même être augmentés du fait de l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique ?
Alors, d'abord, l'IA, effectivement, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vraiment un élément central aujourd'hui qui nous interpelle beaucoup. Vous faites allusion à un numéro d'accroche, c'est vrai, nous l'avons consacré spécialement à l'IA. Celui qui suit ce numéro-là et aborde encore cette question de l'intelligence artificielle. Alors nous, au niveau du Club de la presse, je crois qu'on a pris la juste mesure de l'irruption de cette intelligence dans nos vies. C'est un outil formidable, mais c'est aussi un danger considérable. Si je prends les activités qui ne sont pas directement les nôtres, en médecine, incontestablement, l'IA est une avancée majeure. En ce qui concerne l'information, c'est un outil qui peut effectivement remettre en cause radicalement le métier de journaliste et qui peut en fait le contrer.
Quand vous dites le contrer, ça veut dire quoi? Le faire disparaître, en fait, on peut faire, le faire vriller
En fait, on peut quasiment faire un journal sans journaliste. Est-ce que c'est un journal? Nous répondons non. Bien entendu, mais certains s'essaient à faire un journal sans journaliste grâce à l'IA. Alors, Cilia est un outil, oui, d'accord, mais en fait, c'est un outil aussi pour nous délivrer du poids de l'effort. C'est le lanceur d'alerte Éric Sadin qui dit ça, et il a raison. Il a raison de dire que, en fait, ça nous évite de travailler, ça nous évite de penser, ça nous évite, regardez comme les jeunes font leur devoir avec l'IA. Eh bien, ça, c'est une catastrophe. C'est une sorte de prêt à penser qui est désastreux. C'est-à-dire, comment peut-on dire ? On peut mettre une pensée majoritaire, dominante, une pensée consensuelle. Est-ce que c'est une pensée tout court ? Non, parce que ça veut dire qu'effectivement, eh bien, les minoritaires ne peuvent plus se faire entendre, que l'inventivité disparaît. Il y a là, je crois, vraiment un grand danger. Alors, si on parle d'information et si on essaie de rentrer un peu plus dans le détail, il y a plusieurs niveaux à examiner. D'abord, il y a le niveau de l'utilisateur lambda, vous et moi. Et puis après, il y a le niveau des journaux. Comment utiliser l'IA notamment et pourquoi en faire ? C'est toute la question qui se pose.
Alors, effectivement, il y a deux types d'utilisation. Maintenant, elles finissent par se rejoindre aussi, parce que souvent, les gens qui utilisent l'IA à titre personnel, non professionnel, ménager, je dis toujours ménager ou domestique, peuvent avoir affaire à l'IA utilisée par des journalistes. Alors, il y a quelque chose qui me paraît très important là-dedans, c'est la question des sources, par exemple. C'est vrai que les sources pour le journalisme, c'est essentiel. Il faut qu'elles soient vérifiées, il faut qu'elles soient validées. Quand on fait appel à l'IA, quand on a une idée de sujet, qu'on fait appel à l'IA pour avoir une espèce de synthèse sur ce sujet, on ne connaît pas les sources. Et mieux que ça, ces sources, elles sont bien données par quelqu'un. Ce sont des documents, des renseignements qui sont donnés par quelqu'un. Par qui ? Et est-ce que justement, là-dedans déjà, il n'y a pas une intention qui n'est pas une intention très favorable ou qui peut être délétère ou malsaine ?
Alors effectivement, la question des sources, il faut bien regarder les choses. Il y a deux sortes de sources. Il y a les sources d'un journal qui sont des sources internes aux journaux et qui peuvent effectivement alimenter l'intelligence artificielle. Et puis, il y a les sources externes. Nous, si vous voulez, ce que nous disons, c'est que la réponse la plus habituelle est de vouloir, au fond, automatiser les tâches fastidieuses pour consacrer plus de temps au travail d'investigation et d'écriture. Si c'est vrai...
Vous dites bien d'investigation et d'écriture.
Voilà.
L'IA ne sert pas à écrire. Enfin, on peut s'en servir pour écrire, mais un journaliste digne de ce nom ne devrait pas avoir à faire appel à l'IA pour écrire.
Je vais vous donner un exemple qui est assez connu d'ailleurs. C'est un exemple italien qui s'appelle l'Écho de Bergamo. Bergamo est une ville italienne. Eh bien, c'est un journal qui a été fondé en 1880. C'est pas rien. Eh bien, aujourd'hui, il a fait ceci. Il a une base de données de personnes et il a fait une base avec 320 000 nécrologies. Et à partir de là, il a entraîné une intelligence artificielle, pour extraire les avis de décès à partir des archives en PDF du journal. Et donc ça, c'est très original, parce qu'il a créé une sorte de base où chaque vie est une histoire. Là, l'intelligence artificielle, ma foi, elle a servi à quelque chose. Vous voyez, ça, c'est un exemple positif. Ensuite, après, vous avez raison de le dire, tout projet IA nécessite une vérification humaine. Elle est absolument indispensable. Ensuite, il y a essentiellement la nécessaire implication des rédactions, la rédaction de son journal. Il faut que la rédaction soit impliquée dans le processus qui vise à utiliser l'IA. Si elle est tenue à l'écart, ça sera totalement un échec. Enfin, il y a un élément important qu'on ne dit pas suffisamment à notre avis. Il faut tester, retester. Pour conduire un projet IA, il faut se battre, il faut faire en sorte qu'on ne laisse pas l'IA occuper le champ entier, ni lexical, ni rédactionnel.
Mais ce métier de journaliste est quand même véritablement en danger à cause de l'IA, effectivement. Si on n'utilise pas ça comme un simple outil, ça doit être un outil, ça doit être quelque chose qui facilite les choses, mais ça ne doit pas être la seule chose quand on fait le métier de journaliste. Mais il y a aussi d'autres choses qui mettent en péril le métier de journaliste. On s'est aperçu maintenant que tout le monde pouvait être journaliste, comme tout le monde pouvait faire des documents graphiques, etc., du design et tout ça. Parce que quand vous êtes sur un endroit, vous faites une photo, vous envoyez un texte, vous envoyez un journal, etc. Tout ça entremêlé, ça finit quand même par mettre en péril le journalisme tel que nous pouvons le concevoir avec une véritable éthique.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, on peut pas passer à côté d'une révolution qui est aussi importante. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, le journal Ouest France et d'autres médias d'ailleurs de proximité, dont d'ailleurs le groupe La Dépêche du Midi, dont dépend le Midi Libre, se sont associés pour réfléchir, travailler ensemble pour définir les meilleures utilisations possibles de l'IA, notamment pour gagner des abonnés. Donc là, vous voyez, il y a une valorisation, une positivation de l'IA. Après, vous avez raison, mais je crois que la question que vous évoquez, tout le monde est journaliste. Non, tout le monde n'est pas journaliste, il faut
tout
le dire.
Tout le monde se prend.
Il y a des écoles de journalisme, il y a des années d'apprentissage pour apprendre ce qu'est un journaliste, comment on va chercher l'information, comment on la contextualise, comment on la hiérarchise. Je veux dire, il y a tout un processus important. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce que j'appellerais une crise du réel. C'est-à-dire que, par exemple, l'historien Pierre Rosanvallon, il souligne qu'une des principales causes de la panne de la représentation démocratique, c'est le sentiment de ne plus être considéré. Personne ne s'intéresse à moi, on entend ça, personne ne m'écoute, ce que je dis ne compte pas. C'est la question du déclassement. Et puis, à côté de ça, il y a un phénomène très important qui se développe depuis plusieurs années, c'est précisément cette crise du réel avec la confusion entre le vrai et le faux, la dégradation des bases factuelles de l'échange. Regardez par exemple dans nos familles, regardez par exemple les échanges qu'on peut avoir. Les éléments factuels sont contestés, sont fracturés. Parlons par exemple des oppositions sur la question des vaccins. Regardez les vaccins par exemple. Les familles sont divisées. Donc aujourd'hui, la question du réel, ce qui est fondé, aujourd'hui a éclaté. Et donc là, l'intelligence artificielle ne nous aide pas. Mais c'est là qu'on a la possibilité aussi de reprendre la main par rapport à l'intelligence artificielle et de vérifier des sources. Vous parliez tout à l'heure de la vérification des sources. Effectivement, c'est essentiel.
Alors, je voudrais qu'on ait aussi une petite réflexion critique, toujours sur l'IA, mais enfin, il n'y a pas que du mauvais dans l'IA. Il faut quand même citer un certain nombre de choses. Ça a quand même un impact environnemental sur l'identification des données fournies par l'IA. Il y a quand même plein de choses qui ne sont pas aussi simples que ça. C'est pas un outil anodin, même sur le plan environnemental.
Rien n'est anodin, bien sûr. Il faut effectivement construire des centrales, non pas nucléaires, mais en tout cas des centrales électriques énormes pour pouvoir gérer les flux électriques monstrueux la question des data. Tout ça, ce problème se pose. Mais si nous parlons au niveau de la focale qui nous intéresse, la focale journalistique, résumons-nous. L'IA, tout n'est pas mauvais dans l'IA. Tout n'est pas à jeter. Et pour autant, il est absolument indispensable, quand on évoque l'IA, de contenir le mouvement, de l'orienter positivement pour que les valeurs du journalisme et les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire une information pesée, une information vérifiée, une information fiable, soient à la portée de chaque citoyen.
On va en parler dans quelques instants, ça sera notre deuxième pause musicale tout de suite. On va en parler dans quelques instants parce qu'effectivement, on va voir si on peut couper entre guillemets à l'IA, ça paraît difficile, et quels sont les garde-fous, ça sera la troisième partie de notre entretien. Mais tout de suite, vous avez choisi une deuxième pause musicale.
Alors j'ai choisi un très beau morceau de Juan Luis Guerra, qui est un auteur-compositeur-interprète très populaire sur la scène musicale hispanophone. Il est originaire de la République dominicaine, c'est un maître de la fusion entre la musique afro-latine. Et là, il a réinterprété le Lacrimosa du Requiem de Mozart. Vous savez que c'est Mozart a écrit seulement le Lacrimosa. Vous allez être surprise, vous allez voir, c'est tout à fait... Parce que Mozart, il est génial, mais il est génial de plasticité, en fait. Et là, vous avez à la fois Mozart et vous avez une capacité créative de Juan Luis Guerra qui vraiment emprunte le thème principal du Lacrimosa. Et c'est tout à fait formidable. Écoutons.
On écoute, merci beaucoup.
Un sueño es todo lo que queda de ti, una cruel ilusión que marchita mi vida. Rosario que nunca rezó, un enredo fatal que me arrastra sin camino. Canto la amargura de mi corazón, hoy me queda un minuto de luz y lo pierdo contigo. Santa, yo te hacía bendita mujer, pero se equivocó mi querer y me hundo en el olvido. Lacrimosa, un puñal es tu cariño, no me lo claves que aún vivo curando las noches de amor que te di. Quiero beberme tus ojos, llorarlo sin fin. Lacrimosa, ni un pañuelo me has dejado para secar el pasado de besos mojados que hoy suda mi piel. Quiero beberme tu boca, besarte, el pacto de amor que la luna se nos anunció sobre un papel de arena. Vete, si te dicen que pierdo razón, es que en mi corazón la verdad miente de pena. Si te alejas, mira, lacrimosa, un puñal es tu cariño, no me lo claves que aún vivo durando las noches de amor que te di. Quiero beberme tus ojos, llorarlo sin fin.
Merci Dominique de nous avoir fait découvrir ce morceau dans cette pause musicale. C'est vrai que c'est tout à fait original.
Je trouve en effet.
Vous avez bien fait. C'est une émission où on découvre aussi plein de choses. Et là, on est en train de parler de l'IA. Donc, on en découvre d'autant plus que ça n'est pas tout à fait récent, que beaucoup de gens s'en servent déjà sans forcément savoir s'en servir et que c'est en train de bouleverser nos sociétés modernes et nos démocraties. Alors, j'allais vous dire quels sont les garde-fous. Donc, moi, j'avais noté que les IA sont en fait le reflet des connaissances et des ignorances des usagers. C'est-à-dire que l'IA ressort, restitue ce qu'on lui a donné à manger. Donc, si c'est bien intentionné, tout va bien. Si c'est pas bien intentionné, tout va pas. Ça n'est pas une solution, mais un outil. Donc, il faut que ça reste un outil. Bon, la vérité, on en a parlé. Hein, la protection de la vérité, c'est indispensable. La formation des jeunes, et puis des jeunes et des moins jeunes. Et là, je crois que vous avez une série, effectivement, de points qui doivent nous permettre d'utiliser l'IA peut-être...
Oui, alors, vous avez raison de souligner...
Avec plus de lucidité.
L'IA, et puis par rapport à l'information, par rapport aux informations que nous recevons tous, il est important de pouvoir les maîtriser, en quelque sorte. Et vous savez qu'il y a les jeunes, certes, nous sommes beaucoup intervenus auprès des jeunes, mais nous sommes aussi intervenus auprès des seniors. Et les seniors sont très demandeurs. Et le Club de la presse Occitanie a publié... un livre qui est utilisé dans les interventions, qui s'appelle Un fox, non. Et il y a un certain nombre de bons réflexes, me semble-t-il, que nos auditeurs peuvent entendre et peuvent faire leur, notamment, par exemple, trouver quelle est la source de l'information. Est-ce qu'elle est officielle? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est de confiance? Qui en est l'auteur? Est-ce que c'est un inconnu, un professionnel
du sujet?
Alors, comment fait-on? Voilà, comment fait-on?
Quand on interroge l'IA, qu'elle vous donne une réponse toute mâchée, comment sait-on?
On recoupe, on regarde, on va ailleurs, on cherche d'autres sources. Et surtout, on utilise des journaux qui ont pignon sur rue. Effectivement, il y a des journaux, des grands journaux nationaux, mais aussi de grands journaux régionaux qui apportent des réponses. On compare, on prend le temps de comparer. On se pose aussi la question, est-ce que cette information paraît crédible? Est-ce qu'elle est fiable? Je crois que c'est important de se poser cette question. Est-ce qu'elle fait l'objet de controverses? Est-ce qu'elle fait l'objet d'une interrogation qui est une interrogation générale? Est-ce que, oui, on peut la comparer à des sources contradictoires? On parle de sources contradictoires, c'est vraiment très important.
Mais la nature humaine va quand même souvent vers... je pense quelque chose et je cherche... ce qui va confirmer ce que je pense, ce qui n'est pas forcément la vérité.
Mais oui, vous avez raison, mais il faut éviter précisément de tomber dans le piège de l'émotion pure. Parfois, je
tombe... Il y a des infos qui nous arrangent.
Il y a des infos qui nous arrangent. Il y a des infos qui sont, qui nous font du bien. Et c'est ça dont il faut véritablement se méfier. C'est pour ça que quand il y a des photos choquantes, des nouvelles qui font peur, qui créent de l'anxiété, il faut se méfier doublement. Malheureusement, la réalité aujourd'hui, la guerre et l'actualité nous ont rattrapés. Mais je crois qu'il faut quand même faire très attention. Vous savez, par exemple, on estime qu'une fausse info, une fake news est multipliée plus rapidement à hauteur de 6 fois qu'une information véritable. Pourquoi ? Parce qu'on veut la partager. Or, c'est la pire des choses. Il ne faut pas partager une information sans l'avoir vérifiée.
Se méfier des buzz.
Il faut absolument refuser, pour se faire plaisir, de partager une information qui paraît la plus farfelue, voire la plus contraire à la vérité. Donc, il y a comme ça toute une série d'éléments. Je vais en citer aussi quelques autres. Il faut, par exemple, sélectionner nos sources d'informations. On l'a dit, et il faut notamment choisir des formules, des supports, des médias qui sont des médias reconnus. Il faut aussi choisir de ne pas cliquer et recliquer. Par exemple, il faut éviter de cliquer sur les annonces sponsorisées ou sur les fenêtres publicitaires. Ce sont des choses qui sont des petits réflexes que nous conseillons à nos amis auditeurs, et je crois qu'effectivement, ils en seront grandement soulagés, parce que c'est un sujet très compliqué, l'information. Il faut faire très attention. Il peut y avoir une déstabilisation, et ça, nous, bien entendu, nous luttons pour la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse, ça n'est pas juste la sécurité du journaliste. Elle repose aussi, me semble-t-il, sur une économie des médias qui tourne, qui fonctionne bien. Donc, c'est important de défendre les médias qui fonctionnent bien, les médias qui sont des médias de proximité. Il faut recréer parfois la confiance des citoyens. Il faut que la parole politique, bien entendu, soit responsable, ce qui parfois n'est plus le cas. Et il faut un cadre légal qui s'impose à tous et respecté par tous. Et quand on aura ça, quand on aura construit ou reconstruit ce modèle-là, eh bien, on aura déjà fait un très grand pas vers du positif, me semble-t-il.
Alors, moi, j'ajouterais, parce qu'on a parlé des seniors, mais on peut parler aussi des jeunes, c'est-à-dire que dès l'école primaire, il faudrait, et ensuite au collège, au lycée, dans les facultés, dans les grandes écoles, il faudrait qu'il y ait quand même des cours, ou en tout cas des informations très précises sur l'IA, sa bonne utilisation et sa mauvaise utilisation. Et je pense qu'effectivement, il y a déjà des groupes de gens qui s'occupent de ça, et je crois que ça a été pris en compte, semble-t-il, par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est là qu'il faut commencer, peut-être.
L'éducation aux médias est devenue un élément très important de l'éducation nationale en France. Il y avait un retard considérable, et nous avons enregistré, nous, Club de la Presse, la montée en puissance de l'éducation nationale, notamment à travers le CLEMI. Le CLEMI qui fait un travail formidable aujourd'hui avec nous, et nous faisons aussi nous un travail tout à fait considérable avec cette antériorité.
Alors, le CLEMI,
2017.
Ça veut dire quoi ?
Le CLEMI, c'est l'interface entre l'éducation nationale et la presse, les médias, l'information en direction des élèves.
Je vous remercie beaucoup, Dominique, pour ce moment passé avec vous. Toujours très agréable. J'espère que vous reviendrez sur un autre sujet, parce qu'on est passionné en général parce que tout ce que fait le Club de la Presse Occitanie, dont vous êtes le président. Merci à Olivier, qui a assuré la technique de cette émission. Merci à vous, les auditrices et auditeurs, je fais dans le bon ordre.
Et merci à FM+.
De votre fidélité.
Et à vous-même.
On se retrouve dans un prochain 10-10. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Au revoir.